Aujourd'hui, la masterclass de Sebastião Salgado avec Anaël Pija.
Bienvenue, Sébastien Salgado, dans cette masterclass de France Culture qui est enregistrée en public au Centre Pompidou à l'occasion des journées Imagine. Le principe de cette collection est d'examiner le geste créateur, de se demander comment les artistes accomplissent leurs projets, comment ils construisent leurs œuvres depuis la naissance des idées jusqu'à l'élaboration des formes. Avant de débuter, Sébastien Salgado, je voudrais rappeler quelques jalons qui ont marqué vos premières années. Vous êtes aujourd'hui un des photographes les plus célébrés qui soit. Certaines de vos images ont fait le tour du monde. Votre œuvre est scandée de grands livres, de nombreuses expositions, pour n'en citer que quelques-unes, Sahel, l'homme en détresse en 1986, La main de l'homme en 1993, Exode en 2000 et plus récemment Genesis en 2013. Il y a même un film documentaire que Wim Wenders a tourné sur vous avec votre fils, Juliano Ribeiro Salgado, en 2014. Ce film s'intitulait « Le sel de la terre ». Aujourd'hui, le projet auquel vous vous consacrez d'une façon très engagée est celui d'un institut que vous avez créé avec votre épouse, Lélia Wanik, Instituto Terra. Un institut qui s'est donné pour mission la replantation de la Mata Atlantica sur un terrain qui appartient à votre famille dans la région du Minas Gerais au Brésil. Donc, pour en revenir au commencement, Sébastien Salgado, vous avez en fait débuté votre carrière tout à fait autrement que comme photographe. Votre père voulait faire de vous un avocat, alors peine perdue. En 1968 et en 1969, après une thèse en économie, vous vous destinez à une carrière de fonctionnaire au ministère des Finances à São Paulo. Mais je me demandais, dans vos premières années, l'art était-il présent d'une manière ou d'une autre dans votre famille ?
Je suis né dans une ferme, très isolée à l'époque que je suis né. Et pendant une bonne partie de ma jeunesse, on n'avait pas de route. C'était des grandes fermes. Et qui, pour atteindre, par exemple, l'abattoir, qu'on partait avec les bêtes de cette ferme d'élevage, on mettait entre 45 et 50 jours. On était très isolés. Et j'ai eu un contact, au début du contact que j'ai eu avec l'art, c'est quand j'ai quitté ma petite ville de l'intérieur, et je peux venir dans une ville plus grande, Vitória, c'était une capitale de Provence au Brésil. Là, j'ai pu commencer à connaître qu'est-ce que c'était la peinture. Et la musique, non, la musique... Au Brésil, on a la musique un peu partout, la musique populaire, elle est très, 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 très connue. On a eu beaucoup, depuis mon petite enfance, beaucoup de contacts avec la musique de Villa-Lobos, parce qu'il n'a composé pas seulement les grandes œuvres musicales, mais il a fait beaucoup de compositions qui a touché d'une manière très large le public brésilien. Mais la peinture, la photographie, les sculptures, j'ai commencé à les connaître plus tard, quand j'avais 15 ans, comme j'ai déménagé dans une plus grande ville, et c'est là que j'ai eu les premiers contacts. Mais il faut dire que ma photographie, je crois qu'elle est née à mon petite enfance. On avait une ferme dans une région très vallonnée de ma Provence, donc une ferme située pratiquement dans des montagnes. Et c'est une région qu'elle reste sans pluie un certain nombre de mois de l'année. Et quand la pluie commence à se préparer, quand elle va arriver, on a des ciels que j'ai jamais vus si beaux et si importants de ma vie. J'étais tout petit, je me rappelle que mon père m'a porté dans les points les plus hauts, l'élévation la plus haute de cette ferme, qu'on avait une vision des dizaines de kilomètres autour, et que mon père adorait voir arriver la pluie, et que je voyais ces lumières qui perçaient le nuage, une certaine quantité de pluie qui tombait à 10 kilomètres de nous, d'autres qui tombaient à 100, qui quelquefois tombaient sur nous, et on était dans ces univers de lumières, de formes, de volumes, et qu'aujourd'hui, quand je vois la lumière qu'il y a dans ma photographie, je sais qu'elle est venue de là. Donc, sans que je le sache, un peu de l'art a entré dans mon esprit quand j'étais très petit.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez effectué ce déplacement fondateur vers la photographie, que vous avez abandonné cette première vie dans laquelle vous avez commencé à travailler à Londres pour l'Organisation internationale du café au début des années 70?
Ça s'est passé un peu avant. J'étais ici en France et en train de préparer une thèse de troisième cycle en économie. Et ma femme, Lélia Wanick, comme vous avez dit, elle faisait architecture à l'UP6 de l'École des Beaux-Arts, ici à Paris. Et elle achète une caméra pour faire des photos d'architecture. On était en vacances au mois de juin, fin juin, début juillet de 1970. On va à Genève et on achète une petite caméra, une excellente caméra. C'était une Pentax Spotmatic 2. Et elle achète avec un objectif normal, 50 mm. Et pour la première fois, j'ai pu regarder à travers un viseur et voir que j'avais une énorme possibilité, un miracle, de pouvoir arrêter tout ce que je voyais qui me motivait, qui me touchait l'âme. Je pouvais l'avoir en image. Et pendant ces vacances, on a commencé à faire, et j'ai fait tellement que c'est seulement moi qui faisais les photos. Et quand on a retourné de vacances, on avait déjà un objectif de 24 mm, un objectif de 200 mm, qui me permettait de couvrir un champ assez large. Et j'ai senti que la photographie, à ce moment, a fait une invasion totale dans mon esprit.
Est-ce que c'était la découverte d'une vocation? Vous croyez dans l'idée de vocation, Sébastien Salgado?
Je ne sais pas, c'était la découverte de quelque chose qui était dans moi. Je n'avais jamais fait une photographie de ma vie, née à la campagne. Mes sœurs avaient une caméra, un petit carré, qu'on appelait la Kodak, mais que ce n'était pas Kodak du tout, c'était une autre marque quelconque, mais au Brésil, on l'appelait une Kodak. Ah, ils ont une Kodak. Mais ça ne m'intéressait jamais, je n'ai jamais fait une seule, je ne m'intéressais pas à la photographie. Je devais être avocat, je n'ai pas été. J'ai fait des cours d'économie. À un moment que je faisais mes cours d'économie ici en France, j'ai voulu partir en Union soviétique, à l'université Patrice Lumumba, pour devenir un ingénieur mécanicien. J'essayais beaucoup de choses. Et quand j'étais jeune, j'ai une petite entreprise d'exportation des bois au Brésil, jusqu'au jour que j'ai découvert la photographie. Le jour que j'ai découvert la photographie, là, quelque chose s'est passé dans ma vie. À partir de là, j'ai commencé vraiment à faire la photographie. J'ai monté un petit labo. J'avais pas des ressources suffisantes pour me payer tout un hobby de photographe. Mais on habitait ici à Paris, à la cité universitaire. J'ai monté un tout petit labo dans notre chambre. Et j'ai mis un petit annonce dans les restos de la cité universitaire. Et j'ai développé des films pour les autres. Et j'ai copié pour les autres étudiants qui étaient là-bas. Et comme ça, j'ai trouvé d'argent suffisant pour payer le début de ma photographie. Après, je pars à Londres comme économiste. J'ai fini la préparation théorique de mes études à Paris. Je pars en Angleterre pour travailler dans l'Organisation internationale du café. Mais mon travail consistait à créer la diversification de la culture des cafés. Les cafés, il avait un accord mondial pour maintenir l'offre et la demande des cafés. Et donc, si l'offre était beaucoup plus grande, les prix allaient chuter nécessairement. Et donc, on partait. J'ai travaillé dans un fonds de diversification, à la fin, une banque d'investissement, une banque. On avait un énorme fonds. Et on partait dans les pays producteurs de café pour trouver des projets qui fassent une diversification de la production de café pour éviter la grande offre du produit. Et là, ma région de travail, c'était l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Congo, ancien Congo belge, le Congo Kinshasa. Et donc, j'ai parti travailler dans ces régions. Mes premiers voyages en Afrique, j'amenais avec moi la caméra de Lélia. Et quand je rentrais à Londres, à ce moment, on n'habitait plus à Paris, on habitait à Londres, ces photographies me donnaient 10 fois plus de plaisir que les rapports économiques que je devais produire Et jusqu'à un moment qui était tellement fort qu'avec Lélia, on a pris la décision de tout abandonner, devenir photographe. À ce moment, on a retourné en France. Parce que la France, pour les Brésiliens de ma génération, c'était notre deuxième pays. Et là, on est venu, on est retourné en France. Et j'ai commencé effectivement ma vie de photographe. Mais pendant plusieurs années, j'ai un doute énorme si j'étais vraiment photographe ou si j'étais pas en train de me tromper en essayant d'y aller dans une autre direction.
Vous vous êtes ensuite installé dans le monde du photojournalisme. Vous avez fait partie des très grandes agences, Sigma, Gamma, Magnum. Quel rôle ces agences ont-elles joué dans votre vie de photographe?
Vous savez, quand on est retourné de Londres, on a trouvé une chambre juste à côté ici, au 16 quai de la Mégisserie, chambre de bonne. Parce qu'on avait économisé un peu d'argent, il fallait que j'aille un peu d'argent pour commencer sa carrière. Ma femme, elle travaillait comme dessinateur sur des projets d'architecture et elle avait fini, elle était en train de finir Beaux-Arts et elle devait, après elle a préparé une maîtrise en urbanisme. Mais elle travaillait sur ses agences et donc on économisait l'argent, on habitait dans une petite chambre de bonne et la dame qui nous a loué cette chambre, Madame Fanot, elle a dit, écoute Sébastien, je suis très ami d'un photographe, je vais vous présenter. Moi je commençais, j'ai dit, merveille, fantastique, présente-moi. Et Madame Fanot, sa famille était propriétaire des tramways de Shanghai, en Chine. Et l'homme qu'elle nous présente, c'était Henri Cartier-Bresson, qui c'était grand ami à elle, grand ami de sa famille. Et donc, j'ai connu Henri au début de ma photographie, et c'était un contact très agréable. Henri, c'était un homme très ouvert sur le monde. Le fait qu'on venait du Brésil, que moi j'ai beaucoup voyagé en Afrique, tout de suite, on a eu une identification énorme. Et là, je commence la photographie avec un doute énorme, en ayant une aide énorme de ma femme qui pouvait travailler pour pouvoir l'argent pour ce qu'on avait besoin pour notre survie. Et j'ai commencé à faire une chose. Je prenais ma mobilette et j'allais sur les rédactions de ce qu'on appelait la petite presse à l'époque. Mais c'était une énorme presse. J'allais à La Vie catholique à l'époque. La Vie tirait 450 000 exemplaires par semaine. C'était un énorme magazine. J'allais à SOS de Secours catholique qui tirait 1 200 000 exemplaires. Les journaux, tous les magazines des groupes Bayard. Donc, j'arrivais à la rédaction et j'ai demandé quels étaient les projets de publication pour la prochaine semaine, les sommaires. Ils m'ont donné, et j'y voyais les choses que je pouvais faire. Je vous apporte les photos, vous m'attendez 2-3 jours, et je prenais ma mobilette et j'allais photographier. Comme je suis un émigré, comme ma condition sociale, c'était la même que les travailleurs qui travaillaient sur les bâtiments, qui travaillaient un peu partout. Et donc, à la Défense, j'ai des photos incroyables. Du début de la construction de la Défense, au plein construction de la Défense, j'ai des photos de la construction de ces bâtiments ici, à cette époque. Et j'ai commencé à faire, et naturellement, je suis venu sur les photos documentaires. Jusque que je pars au Sahel, que je savais qu'il y avait une grande famine qui se préparait à travers les informations, que je venais du monde de l'économie, j'ai travaillé beaucoup lié à la Banque mondiale. On savait qu'il y a une situation très dramatique qui se portait au Sahel à propos des changements climatiques qui commençaient déjà à exister à cette époque. Et donc, j'ai pu partir au Niger en 1973, mois de juin, juillet, avec Lélia. Lélia était enceinte de notre premier fils, Juliano, qui a fait le film avec Wim Wenders. On part là-bas, on avait un copain qui, on avait étudié ensemble, et lui, il dirigeait une institution économique à Niamey. Et on a vécu chez lui, et ça m'a permis de tourner tous les Sahels. En rentrant, j'avais une histoire tellement forte que tous les magazines m'ont publié, et à ce moment, Sigma m'a invité à venir travailler avec eux. Je travaille à Sigma. Mais je n'ai pas beaucoup aimé travailler à Sigma. J'aimais beaucoup les photographes, j'aimais beaucoup les gens, mais c'était une agence tournée énormément vers les news très dures, avec l'actualité politique et les jet-set français. Et donc, je ne trouvais pas beaucoup de dialogue. J'ai resté 6 mois à Sigma, j'ai quitté. J'ai revenu indépendant et je voulais travailler en Afrique. Et pendant que j'étais à Sigma, j'ai rencontré Jean-Claude Francolon, qui était un photographe de Sigma. On est devenus amis. Jean-Claude devait partir en Angola en 1975 pour faire un reportage sur le début de la guerre en Angola. Mais avant, il part au Vietnam. Et donc, il était blessé au Vietnam. Il m'a dit, Sébastien, pars à ma place. Et j'ai parti. Lui, il était à Gama à ce moment. Je pars, il s'est bien entrosé avec ma Gama. Portugal, ça commence la révolution de Zoé, on était en plein. J'ai continué à travailler, je deviens photographe de Gama, où j'ai passé 4 ans. Gama, c'était très important pour moi. Gama, c'était mon école de photojournalisme. Gama m'a appris tout. Vous savez, on partait, par exemple, je ne sais pas, à Johannesburg, de vie de tous les grands événements qui se passaient à Soweto, toutes ces choses. On partait là-bas un dimanche. En arrivant là-bas, j'avais 2 jours pour faire une analyse de la situation, une résumé, photographier, et maximum mercredi, il fallait que mes photos arrivaient à Paris, tu vois, pour qu'on développe, on prépare, que les photos partent à Time ou Newsweek. Et le dimanche, on était à Johannesburg encore, et nos photos étaient déjà publiées, et quelquefois la couverture de Time ou de Newsweek. C'était incroyable. Mais vous savez, pour moi, c'était une école. Et toutes les écoles, pour finir l'école, il faut s'en aller. Et en 4 ans, je me suis formé dans cette école. Et c'était le moment de partir. C'est là que j'ai parti à Magnum.
Le principe de ces masterclass est de se demander comment aussi viennent les idées. J'ai l'impression pour vous, Sébastien Salgado, que, comme vous venez de le dire, le voyage est au centre de tout. Alors, est-ce qu'il y a quand même une phase préparatoire avant le moment où vous quittez Paris, où vous quittez votre base? Comment vous imprégnez-vous d'un sujet? Vous savez l'endroit où vous partez. Est-ce qu'il y a des lectures? Est-ce qu'il y a des rencontres? Comment ça se passe?
J'ai beaucoup voyagé. Je suis peut-être un des photographes qui a plus travaillé dans l'histoire de la photographie. Mais j'ai pas fait beaucoup d'histoires. J'ai fait peut-être 5 ou 6 histoires dans ma vie, composées par des chapitres. Par exemple, à Gama, même à Sigma avant, à Gama, à Magnum, j'ai énormément travaillé en Afrique. J'ai choisi de travailler en Afrique. L'Afrique m'intéressait énormément. Mon pays, il y a seulement 150 millions d'années, c'était lié à l'Afrique. Avant la séparation des continents, l'Antarctique, l'Afrique, l'Amérique du Sud faisaient un continent. Ils étaient séparés, donc tout ce qui est nature chez nous, c'est le même de l'autre côté. Vous savez, tout ce que c'est végétation, c'est exactement le même. Les minéraux, c'est mathématiquement le même, tout est pareil. Et après, au 18e siècle, au 19e siècle, on a eu un apport brutal d'esclaves au Brésil et qui nous a amené la culture africaine. Les Brésiliens, ils sont demi-africains, vous savez. Et donc l'Afrique, ça m'intéressait énormément. J'ai voulu retourner en Afrique, retourner. Personne ne voulait aller en Afrique parce que dans ces agences, on travaille à la production. On gagne 50% de ce qu'on fait. Et ce qu'on faisait en Afrique, ça ne vendait pas beaucoup. Vous savez, mais ça ne m'intéressait pas quand même. Et comme ça, je me concentrais énormément en Afrique. J'ai énormément travaillé. Après, j'ai fait d'autres travaux qui s'étaient liés à des idées que j'avais. Je suis un photographe avec une formation d'économiste, avec une formation d'économie marxiste. Donc la classe ouvrière, le travail pour moi, c'était quelque chose qui a tout créé dans l'univers, qui a constitué les autres des grands facteurs de production, que cette technologie et le capital, tout ça c'est originaire du travail. Et là, avec ma femme, qu'on a vu, qu'on est arrivé à la fin de la première grande révolution industrielle, on a conseillé un corps de travail qui est devenu après, a pris un nom qui s'appelait La main de l'homme. Mais c'est un titre très pompeux parce que dans les autres pays, le nom de livre c'est prolétaire, c'est travailleur, c'est worker, c'est en anglais, en portugais, dans d'autres langues. Et donc on a fait un livre qui c'était un hommage, grand hommage à la classe ouvrière, aux gens qui produisaient tout qu'on avait, qu'on consommait à cette époque. J'ai parti pendant 5-6 ans et comme ça, j'ai constitué une série qui c'est pas énorme. Comme vous avez dit, la main de l'homme, c'est les exodes, c'est une histoire sur la migration. C'est des histoires qui sont mes histoires, que je les connais, que j'ai une énorme identité avec elles. Mais dans le procès de créativité d'un photographe, on a comme ça une grande idée, une grande ligne, et après, on part nous-mêmes. Un photographe sait où il va, mais il ne sait pas ce qu'il va ramener. Il ne sait pas, parce qu'on est un atome, on est une unité. Quand Wim Wenders et une autre fille ont fait ces films, ils ont venu avec des équipes, ils ont venu avec des scripts, ils sont venus filmer ce qu'ils avaient pensé avant. Et les films se font vraiment, l'editing des films, où ils ont passé plus d'un an pour éditer ces films. Tandis que moi, c'est dans un des 150e de seconde, j'ai déjà un produit final. Il est fini à 95%. On donne un tout petit peu de définition au tirage, mais c'est un produit fini. Le photographe, il est tout seul. Quand il intervient, avec ses nuages et ses lumières de son enfance. Il intervient avec son père, sa mère. Il intervient avec son idéologie. Et dans cette fraction de seconde, on aligne tout ça. On aligne l'information qu'on a besoin de donner, toute l'histoire qui se passe. Et vous savez, c'est tellement magique. Il y a tellement de pouvoir dans la photo. Quelquefois, les gens disent, Sébastien, tu es un artiste. Je dis, non, je suis un photographe. Parce que c'est un privilège d'être un photographe. Il y en a très peu de photographes. Beaucoup de gens qui veulent faire de la photo. L'effet que tout le monde aujourd'hui photographie avec un portable, ça, c'est pas de la photographie. Ça, c'est une communication fait à travers de l'image. Mais la photographie, c'est tangible. On touche la photographie. La photographie, c'est la mémoire. La photographie, c'est un peu le miroir des moments historiques qu'on est en train de vivre. Et vous savez, et nous, en déplaçant au haut de la vague des moments historiques qu'on vit, on est capable d'en se couper comme un samouraï. Paf, on coupe, il s'est coupé. Vous savez, on a ou on n'a pas. Mais pour l'avoir, on sent que quelque chose va se passer. On sent, on travaille dans un phénomène. On évolue dans ce phénomène. Et on sent que l'image va se former. Et dans une fraction de seconde, il faut qu'on aligne la lumière, la composition. Il faut qu'on aligne les plans. Il faut qu'on ait toutes les proportions. Sinon, on n'a pas l'image. Toutes les règles d'or de la composition, il faut qu'elles soient présentes. Et donc, c'est ça la photographie pour moi.
Comment, Sébastien Salgado, quand vous photographiez des hommes, c'est-à-dire très souvent, comment vous établissez un lien avec eux? Est-ce qu'il y a un échange qui se passe avec les personnes que vous photographiez?
Vous savez, quand on vient photographier une communauté de lions, c'est très compliqué. Parce que les systèmes logiques, c'est pas qu'ils sont irrationnels. C'est un mensonge de dire qu'on est la seule espèce rationnelle. Toutes les espèces sont profondément rationnelles dans son propre espèce. Il faut qu'on comprenne les systèmes logiques des lions pour pouvoir avoir l'autorisation des lions pour photographier. Qu'on vient photographier les tortues, c'est la même chose. Les arbres, c'est la même chose. Mais qu'on vient vers notre propre espèce, c'est la chose la plus facile qu'il y en a. Parce que c'est nous-mêmes. La personne qui est en face de moi, c'est moi. Pareil à moi. Ce qui est essentiel pour moi, c'est essentiel pour elle. Donc, on peut monter un rapport des relations, un rapport des solidarités, un rapport communautaire. Je peux m'expliquer, ils peuvent s'expliquer, on peut être accepté. Il y a un moment qu'on est accepté, on est accepté. On fait partie d'un groupe et on vit avec eux. Je prends longtemps pour faire mes photos.
Qu'est-ce qui est le plus difficile?
Rien. Le plus difficile, c'est d'avoir le courage d'y aller. Vous savez, on s'habitue assez rapidement avec le confort, avec la protection. On vit dans une société la plus sophistiquée du monde, que c'est cette société française. Les Français gueulent tout le temps, mais c'est les gens les plus privilégiés du monde. Ils ont la meilleure sécurité sociale du monde. Ils ont la meilleure alimentation du monde. Ils ont les meilleurs vins du monde. N'est-ce pas? Les villes sont d'une beauté immense. Le système de transport. Incroyable. Et donc on s'habitue à cette protection. Et au moment de partir au fond du Sahel pour rencontrer les réfugiés, pour vivre avec eux, pour manger presque rien, pour dormir par terre ou sur un hamac, vous savez, il faut y aller. Il faut y aller. C'est ça le plus difficile. Une fois qu'on a quitté cette base de confort et qu'on accepte de flotter, on est. Parce qu'il n'y a aucun problème pour être accepté pour une autre communauté. L'homme, c'est un animal grégaire. Qu'on arrive seul, on est assimilé, on est protégé, même pour des gens qui n'ont rien. J'ai travaillé avec des gamins de rue à São Paulo, des gamins extrêmement violents, des gamins qui étaient habitués à la drogue. Je venais, je me fais accepter par ces gamins volaient des choses pour moi. Ils volaient des fruits, ils ne voulaient pas que je parte, ils m'ont donné. J'ai devenu partie de cette communauté. On peut intégrer n'importe quelle communauté, même si on ne parle pas la langue. On est absolument le même animal. Ce qui est essentiel pour moi, c'est essentiel pour quelqu'un qui est en face de moi. Et donc, ça, pour travailler avec les humains, il n'y a pas de problème.
Est-ce que vous avez, il y a dans votre travail une très grande diversité, si on pense par exemple à la série des enfants, le livre sur les enfants que vous avez fait, ces portraits d'enfants très émouvants, ou bien des photographies de personnes dans un état d'extrême souffrance. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une série se dessine en réaction à la précédente, ou bien comme une suite, ou bien comment se dessine ce fil des séries dans votre travail ?
Dans mon travail, beaucoup de séries sont nées d'une autre. Et beaucoup de choses sont nées dans les propres travaux. Vous parlez des enfants. Je faisais un travail sur le mouvement de population, sur les réfugiés, les immigrés, que c'est une histoire que je la connais comme la ligne des mamans. Parce que j'ai quitté mon pays comme un étudiant, et jusqu'à aujourd'hui, 50 ans après, je suis encore un immigré. Vous savez, j'ai la nationalité française, la nationalité brésilienne, mais j'ai dû couper avec mes origines pour être ici. Donc, je me sens de manière spéciale. Mais en faisant ce travail que j'avais une énorme identification avec, j'arrivais dans des camps de réfugiés, on a toujours cette nuage d'enfants qui vient autour. Ils veulent tous se faire photographier, et quelquefois, s'il passe quelque chose de très important, on ne peut pas photographier parce que les gamins sautent devant, ils lèvent la main. Et j'étais au Mozambique, en faisant un reportage pour Save the Children Fund de l'Angleterre. On était partenaires dans cette histoire. Et parce que tous mes reportages, sans exception, je les fais liés à des institutions qui sont liées avec les communautés où je vais, pour que je puisse quand même avoir une introduction à ces communautés. Et donc, ces gamins sautaient en face. J'ai dit, comment je vais résoudre ce problème? J'ai une idée. Je me mis assis, j'ai dit, vous vous mettez en queue. J'ai fait un portrait de chacun. J'ai fait vraiment. Et après, vous me laissez travailler. Ah, ils étaient tous d'accord. Ils sont mis. Et avec les gamins, il faut faire vraiment parce qu'ils sont extrêmement malins. Ils savent si ton diaphragme est fermé ou non. Ils regardent dans l'optique. Et donc, j'ai fait mes photos. Vraiment, ils étaient réglo. Ils sont partis. J'ai pu travailler. Une heure après, c'est passé la même chose. Ça marchait la première, ça marchait la deuxième, et ça marchait toujours pour n'importe quel groupe d'enfants au monde. Donc, c'était bien, j'ai pu faire mon travail avec les réfugiés. Et j'ai jamais édité ces photos. Parce que c'était une photo, une obligation que j'avais de faire avec ces enfants. Un jour, par hasard, j'ai pris une branche de contact, je mets une lupe, je commence à regarder, je dis, oh, il y a quelque chose là. Chaque gamin qui quittait le groupe, qui s'était joyeux, qui sautait même dans la détresse totale, un gamin est joyeux. Il venait en face de moi, à travers la fenêtre de son âme, et que c'était ses yeux, je pouvais voir ce qu'il sentait. Je pouvais voir ce qu'il avait souffert. Je pouvais voir sa vie, tu vois. Et je commence à regarder, et je vis que j'avais une collection d'images incroyables. Et à ce moment, je montre à Lélia, qui dessine tous mes livres, qui organise toutes les expositions, et Lélia a pris la décision de le donner en forum, elle a donné un livre à ces gamins. On a fait un livre qui s'appelle « Portrait des enfants de l'Exode ». Et ce sont des photos qu'on a toujours montrées parce qu'elles touchent les gens. L'année prochaine, au mois de mai, on fera une exposition à Londres au Foundling Museum. C'est un musée qui a été créé à Londres au début du 19e pour des enfants de rue abandonnés. Et comme c'était un musée pour des enfants abandonnés, on va faire une expo à Londres l'année prochaine de ses enfants. Mais vous savez, la créativité, les idées naissent une de l'autre. Quand je faisais la main de l'homme, j'ai travaillé sur la fin de la première grande révolution industrielle. Beaucoup de gens de ma génération qui sont ici présents, vous vous rappelez bien qu'aux années 80, fin des années 70, on avait des pans entiers d'industrie qui disparaissaient en France. Vous vous rappelez bien, l'industrie sidérurgique en France, elle était tellement importante. Et d'un coup, on a commencé à créer un univers de chômage. Et on a commencé à vendre ces usines clés en main en Chine, en Inde, au Brésil, un peu partout. Et on a commencé à perdre cette grande base ouvrière de la France parce que l'arrivée de la nouvelle technologie, de l'informatique, de l'électronique, des machines intelligentes à la ligne de production, ont commencé à remplacer tous ces travailleurs. L'industrie automobilistique, une voiture qui sortait de la ligne de montage, c'était produit de la main de tous ces travailleurs qui étaient là. Dans ce moment, c'était produit des machines, des robots que la montaient. Et les travailleurs qui travaillaient sur ces robots, ce n'étaient plus les mêmes qui travaillaient avant. C'était des jeunes avec une belle formation technique pour gérer ces machines qui géraient la production. Et donc, on a regardé tout ça avec Lélia. On a dit, il faut qu'on fasse un portrait de cette classe ouvrière avant qu'elle devienne une autre chose. Et j'ai parti dans le monde pendant 6 ans en train de photographier la classe ouvrière. Où ce n'était plus possible de photographier, je partais en Asie, je partais en Amérique latine, je me déplaçais dans la géographie pour trouver ce que je voulais montrer. Et en photographiant les travailleurs, j'ai vu, par exemple, mon pays, que c'était un pays qui, quand j'étais gamin, il avait 92% de population rurale. D'un seul coup, on avait commencé à changer le modèle et à migrer vers les villes, à tel point qu'aujourd'hui, le Brésil, c'est plus de 92% des populations urbaines. À cause de quoi? À cause de qui on a changé le process planétaire de production. En place des produits ici, on a déplacé la production lourde vers les pays qui avaient la matière première et la main-d'œuvre, que c'était la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, le Mexique. Et on a vu que, en fonction de cette grande révolution industrielle qui, à l'époque, on n'appelait pas la globalisation, mais c'était la globalisation qui était en train de se fixer, on a vu qu'il avait une autre histoire. On était en train de réorganiser toute la famille humaine. On avait des déplacements de population des campagnes vers les villes, des déplacements de population internationale en fonction de cette réorganisation de la planète. Et là, c'est né l'idée qu'on photographie l'exode de toutes ces populations dans le monde qui est devenu ce livre Exode où j'ai travaillé 7 ans aussi.
La plupart de vos images, Sébastien Salgado, sont des images en noir et blanc. Je me demandais à quel moment vous aviez fait ce choix et le sens que vous lui donnez.
J'ai travaillé beaucoup en couleur pour ces agences parce que les commandes, c'était en couleur, c'était pas en noir et blanc. Mais j'ai jamais bien compris la couleur. La couleur, pour moi, c'était une grande motivation de déconcentration. Ici, dans cette platée, quand je regarde en rouge là, en jaune là, au moment que j'allais photographier ça, je savais que les rouges et les jaunes, ils allaient prendre une proportion tellement immense au retour, au moment de restitution de l'image sur un diapositive, que ça, je perdais toute la concentration. Et quand j'ai photographié en noir et blanc, que c'est une abstraction, tout ça se transforme en gamme de gris. Donc pour moi, j'ai rentré dans l'abstraction pour pouvoir rendre la personnalité, la dignité, toute l'expression réelle qui sont essentielles des gens. Et donc, les noirs et blancs, pour moi, c'était un refuge. Et donc, à partir de ce moment, je savais que je ne pouvais faire que des noirs et blancs. J'étais obligé à faire jusqu'à la révolution de 70 ans dans l'Union soviétique. Le dernier reportage couleur que j'ai photographié dans ma vie, c'était à la Place Rouge en 1987. Après, j'ai plus photographié en couleur.
Pour ce qui est de la question de la technique, puisque c'est aussi un des points de passage de ces masterclass de France Culture, Sébastien Salgado, vous avez aujourd'hui mis au point une méthode qui mêle argentique et numérique. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un mot et savoir si ce basculement vers le numérique avait changé pour vous quelque chose au moment de la prise de vue. En d'autres termes, est-ce qu'il y a beaucoup plus de photos aujourd'hui que vous prenez sans les garder?
Vous savez, pour réaliser une bonne image photographique, c'est comme pour réaliser un grand projet architectural, pour réaliser une bonne peinture, il faut qu'on aille un concept d'excellence sur toutes variables qui vont composer l'œuvre que vous faites. Et pour nous, la technique photographique, elle est essentielle. C'est essentiel, à l'époque où je faisais les films, de développer bien les films, de bien les copier, d'exposer les films en fonction de ce que je voulais montrer. J'arrivais au point d'échanger la formule d'un révélateur de Kodak qui s'appelait D76. J'ai changé la chimie des dents parce que je savais la composition pour avoir des négatifs plus gris parce que j'ai travaillé tellement en Afrique qu'il fallait que j'aille des détails sur la peau noire. Les films n'étaient pas faits pour les peaux noires. Les films étaient faits pour la peau des blancs de l'Europe et d'Amérique du Nord. Et donc, il fallait que j'adapte ces développements pour que j'aille toutes ces techniques. Vous savez, et donc, la technique, pour moi, elle m'a énormément intéressé pour copier mes photos. Et quand j'ai passé au digital, il fallait que je passe au digital. Parce que les pellicules, avec la valorisation des produits qui viennent de la nature, les minéraux de fer ont pris en valeur énorme, et tous les produits ont venu, et l'argent a pris en valeur énorme. Et donc, on a commencé à enlever l'argent du film, qui c'est à la base du film. Les films ont devenu très pauvres. Avant, on avait des gammes de gris d'une beauté immense sur les films. D'un seul coup, les films passaient du noir au blanc très vite. Et donc, c'était très compliqué. Un deuxième facteur très complicateur avec les films, c'était après les attentats du 11 septembre à New York, les durcissements des aéroports à propos des rayons X. Il fallait que les films passent au rayon X. Et les films, ils prenaient une charge énorme. Même si c'était marqué, ça ne fait pas les films, qu'on le passait 4-5 fois, ça déstructurait complètement les gammes de gris encore qu'il y avait dans les films, les grands, tout. C'était. Et donc, il fallait que je saute de technologie. J'étais contre passer au digital. Je ne croyais pas que c'était la solution, le digital. Et j'ai passé au digital. Et j'ai mis au moins 2 années à m'adapter au digital. Ça veut dire, je ne sais pas éditer sur l'écran d'un ordinateur. Donc, il me fallait faire, comme toujours, une planche de contact. J'édite sur planche de contact jusqu'à aujourd'hui. Mais le fait qu'il faut faire une planche de contact, il faut que je fasse très attention avec le nombre de photos, sinon je vais finir avec un nombre immense de planches de contact. Donc, il faut que je me maintienne à peu près comme avant. On me fait une planche de contact, j'édite à partir de cette planche de contact, on fait des tirages de lecture, et quand j'ai fini, j'ai édité les photos que ça m'intéresse vraiment, j'ai produit un négatif. Un négatif immense, un 4 pour 5 pouces, c'est un 10-12 cm, et on copie à partir d'un négatif. Donc, je n'ai fait que changer mon support à la fin. Avant, j'ai enregistré mes images sur un support plastique, qui c'était la base du film. Aujourd'hui, j'enregistre sur un support électronique, mais les procédés, c'est les mêmes. Ça n'a changé dans iota de rien, ma photographie.
Est-ce que vous faites des recadrages?
Sur certains moments, par exemple, je suis en train de finir un projet sur l'Amazonie. J'ai photographié sur des formats, sur la même caméra. J'ai photographié avec des canons, des très très grands canons, les plus grands, les plus puissants, ça s'appelle 1DX. Mais j'ai aidé les Japonais à développer cette caméra. Ils me donnaient le prototype, et j'ai critiqué, j'ai donné les observations, ils ont corrigé, ils ont fait une caméra fabuleuse. Et comme j'ai maintenu un très bon rapport avec eux, ils m'ont fait des verres de visée. J'ai photographié en 35 mm les paysages, que j'ai besoin des lignes d'horizon plus longues, donc c'est plein format. Et j'ai photographié les gens en 4.5-6. Ils me donnent, j'échange moi-même les verres de visée, je mets un verre de visée en 4.5-6. Et au moment de copier, mon archive vient en 35 mm, parce que c'est une caméra en 35 mm, mais au moment de photographier, je vis un espace différent. À ce moment, j'ai fait un recadrement pour adapter mon espace. Mais normalement, recadrer, non, parce que en réalité, on n'a pas besoin. J'ai recadré un peu quand j'étais à Magnum, parce qu'à Magnum, on était tellement strict à la composition, sur les lignes, sur suite. Et aujourd'hui, je reviens en arrière avec mes négatifs que j'avais recadrés à cette époque. On vient de sortir un livre sur une mine d'or que j'ai photographiée en 1986, il y a 33 ans. Le livre vient de sortir en 1996. J'ai cassé mon genou en travaillant en Amazonie. J'ai eu 6 mois d'arrêt. J'ai réédité ces photos. Je savais que j'avais une grande histoire. Et il y a à faire un livre de ses photos. Et là, mes photos, maintenant, elles sont beaucoup plus larges que les mêmes photos que j'avais éditées à l'époque. Si on regarde, il y a une petite différence. À l'époque, elles étaient plus recadrées. Aujourd'hui, elles ne sont plus recadrées du tout. Parce que finalement, ce que j'avais vu avec mon œil, c'est ça que c'était bon. Et pas ce que je pensais que c'était bon après.
Quand vous avez quitté Magnum, en 1994, vous avez créé une agence, Amazonas, qui est destinée à la diffusion, qui se consacrait à la diffusion de votre travail. Je me demandais comment vous, l'importance qu'a pour vous les regards de vos collaborateurs, de cette équipe que vous avez constituée autour de vous et qui, je crois, se compose de personnes très fidèles qui travaillent avec vous depuis de nombreuses années. Quel est leur rôle ?
C'est une très bonne question, parce que là, on peut comprendre l'importance de l'entour de la photographie. La photographie, elle est faite dans une fraction de seconde. Bien sûr, je dépense un peu plus de temps que ça, parce que quelquefois je prends un bateau, je passe du temps dans la communauté pour être accepté, mais tout le temps que je passe pour réaliser l'image, voyage inclus, temps d'acceptation inclus, il ne fait pas 0,5% du temps qu'on a besoin pour présenter une image. Parce que, pour partir déjà, je conceptualise beaucoup avec Lélia. On discute beaucoup ensemble, on imagine ensemble. Pour préparer les voyages, il me faut toute une équipe, un assistant, il me faut des réservations, on s'y occupe énormément, il faut des autorisations, il faut des contacts avec les organisations. Quelquefois, il me faut 6 mois, 8 mois pour préparer une histoire. Et après, quand on rentre, il faut faire les branches de contact, il faut faire les tirages de lecture, il faut faire les BAT, il faut faire les tirages finaux. Les photos que j'ai faites au mois de septembre l'année dernière, elles ne sont pas encore prêtes. Parce que c'est un procédé long de préparation, de choix, de tout. Après, va venir les choix qui vont vers les expositions, qui vont vers les livres. À la fin, le temps de la photo, ce n'est presque rien. Quand j'édite mes tirages de lecture, je n'édite pas tout seul, parce que j'ai une charge émotive tellement énorme sur ces images, que j'ai besoin d'un autre œil pour m'aider à recentrer. Et donc, il y a une fille qui travaille avec moi, Françoise Pipfard. Françoise travaille avec moi depuis plus de 30 ans. On était ensemble à Magnum pendant 8 ans au moins, et après elle est venue travailler avec nous en 94, donc ça fait 35 ans au plus. Et j'ai toujours édité avec Françoise. Donc, les premiers editings que j'ai fait tout seul mes branches de contact, les deuxièmes j'ai fait avec Françoise, on fait un grand tri, et après ça nous reste encore des centaines de tirages, je ne peux pas copier toutes. Et là, c'est Lélia qui vient, et là, on affine, on ajuste, tu vois, on prépare. Là, par exemple, pour mon projet en travail sur l'Amazonie, c'est un livre que je prépare pour être présenté en 2021. On va finir au moins avec entre 6 000 et 8 000 tirages de très bonne qualité. Et là-dedans, il faut qu'on sorte une histoire. Il faut qu'on sorte une histoire qui raconte la vie de l'Amazonie, de ses tribus, qui soit une histoire cohérente, qu'elle a une liaison d'une image avec autre, qu'on sorte des expositions. Donc, c'est un travail d'équipe, vous savez. Au moment d'intervenir, je pars seul, j'ai dans ma tête où je vais, pars seul. Qui c'est seul que ça? C'est pas vrai. Quand je pars en Amazonie, je pars en moyenne avec une équipe de 8 personnes. J'ai au moins un ou deux bons piroguiers parce que c'est tout fait dans l'eau. En Amazonie, quelquefois, on prend 5-6 jours pour arriver dans une tribu. J'ai, dès qu'on appelle au Brésil, un capitaine de brousse. C'est des types qui connaissent la brousse comme la ligne de la main, sont capables de faire la pêche, faire la chasse, d'installer un campement, de prévoir tout ce qui se passe avec la pluie, de savoir où mettre une tente sous la forêt, parce que c'est très compliqué. Le type regarde tous les arbres autour, s'il y a une possibilité qu'il y a un vent, qu'il tombe une branche qui est un peu pourrie, on ne met pas le campement dessus parce que ça peut nous tuer. Donc c'est des mecs de la forêt. J'ai un assistant qui part... Jacques Barthélémy, c'est un guide de haute montagne qui part avec moi de la France, qui est mon assistant, qui est mon compagnon depuis très très longtemps. Vous savez, j'ai un anthropologue, j'ai des traducteurs, donc on a une vraie équipe qu'on vient travailler dans ces endroits. Bien sûr que moi je suis tout seul au moment de faire mon intervention, mais on vient avec une vraie équipe.
Quand vous rentrez de voyage, il arrive que vous stockiez des images et que ces images ressortent sous la forme d'un projet, parfois plusieurs années après. Quel est ce rapport au temps que vous avez? Je pense par exemple au projet Koweït.
J'ai travaillé sur des grands projets, comme j'ai dit, où Koweït fait partie, où ce livre qui vient de sortir cette semaine, on vient de lancer le livre avant-hier en Belgique, sur, qui s'appelle Gold, sur une mine d'or. Et toutes ces photos, j'ai fait il y a plus de 30 ans. Mais je n'ai pas eu le temps vraiment de les éditer à fond, parce que j'ai travaillé sur un projet, sur une idée. C'était l'idée de la fin de la première grande révolution industrielle. J'ai sorti un certain nombre d'images qui sont là-dedans, qui ont composé ces projets, mais après c'est venu une autre idée, c'était faire la réorganisation de la famille humaine. Quand j'ai fini la réorganisation de la famille humaine, qui m'a pris 7 ans, ça m'est venu l'idée des Genesis, qui m'a pris 8 ans. Mais ces histoires ont resté là, vous savez. Le fait que j'avais cassé mon genou en 2016, j'ai pu éditer 2 de ces histoires. Mais il y en a, par exemple, une histoire que je suis presque le seul photographe à avoir travaillé, la construction des tunnels entre la France et l'Angleterre. Là, je sais que j'ai une histoire. Un jour, je vais sortir cette histoire. Quelques photos sont sorties dans le livre « La main de l'homme ». Mais j'ai une histoire. J'ai des photos incroyables, faites à 25 km sous la mer, des mecs en train de creuser pour faire ce tunnel. Incroyable. Vous savez, toute la fabrication des voussières pour faire l'entour de ces tunnels, toutes ces machines, tous ces hommes, plein de boues qui travaillent au fond de l'océan. J'ai ces images. Un jour, on va les sortir. Quand j'étais jeune et que j'ai fait les photos de la construction de Beaubourg, je n'ai pas fait vraiment l'architecture de Beaubourg. J'ai fait les immigrés qui travaillaient ici. J'ai fait les immigrés qui travaillaient à la Défense. J'ai fait, je ne sais pas, à Douai, les fonds de l'industrie sidérurgique à Douai, avec tous les courants d'immigration autour. Un jour, j'ai fait sortir ces images. Quand je vais devenir vieux, et je suis presque vieux, j'ai 75 ans, je suis presque le moment d'arrêter ces voyages, parce que vous savez, mes cellules commencent à mourir. Et avant que j'étais plus jeune, je rentrais dans l'Amazonie, je rentrais de l'Afrique, j'étais en pleine santé. Maintenant, j'attrape beaucoup plus de virus, j'arrive beaucoup plus fatigué. Donc, je crois que ça commence à être le moment de commencer à arrêter. À ce moment, je vais travailler ces images, que je suis sûr qu'elles sont là, qu'elles m'attendent.
Dans chacun de vos livres, il y a des textes, il y a à chaque fois un texte d'introduction de vous et des notes à la fin sur chaque image. Est-ce que c'est important, l'écriture? Ou est-ce que c'est une nécessité éditoriale?
Écoute, mes premiers livres ont demandé à quelqu'un, toujours un écrivain connu, d'écrire l'introduction. L'éditeur croyait que ça c'était important pour la vente des livres. Après, on a remarqué que c'était pas important du tout. Ou les livres étaient intéressants et on les vendait, ou ils étaient pas intéressants, on les vendait pas du tout. C'était ça. Et à partir d'un moment, j'ai dit non, j'ai fait moi-même. J'ai écrit moi-même, raconte un peu l'histoire qu'elle a dans ses livres. Et donc, c'est moi qui ai vécu ces histoires. C'est à moi de compter mes histoires. Je suis pas un écrivain, c'est très difficile pour moi d'écrire. Et donc, j'ai l'écrit, j'ai un des amis journalistes qui m'aide à faire la correction de ces textes, à mettre ces textes dans une certaine forme. Mais ce sont mes textes. Je trouve que c'est important. Vous savez, la photographie, comment on fait? La photographie de l'instantané, la vraie photographie que j'imagine que c'est celle-là. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'autres photographies, n'est-ce pas? On a toute une photographie conceptuelle. Mais ce qui est en réalité, ce sont des plasticiens qui utilisent les supports photographiques pour montrer ses œuvres plasticiennes. Ce n'est pas une photographie qui a une émotion de l'instantané, des reportages, des documentaires. Et donc, cette photographie, c'est un peu le miroir de notre société, comme je dis il y a quelques instants. Elle apporte, en plus de l'émotion et de toute l'histoire des photographes, elle représente les moments historiques qu'on a vécu. Vous savez, et je crois que c'est ça. Jusqu'il y en a peut-être 20, 30 ans, il n'existait que cette photographie. Aujourd'hui, la photographie, elle se vend très cher, les miennes inclus. Aujourd'hui, je suis très surpris, j'ai des photographies qui vendent une fortune. Vous savez, mais elles n'étaient pas faites pour être vendues. Elles étaient faites pour raconter une histoire. Vous savez, à la différence de certaines photographies, quand on va à Paris Photo, on tourne dans Paris Photo, 90% des photos qui sont dans Paris Photo, elles sont faites pour être là, Paris Photo. Elles sont faites pour être vendues. C'est des objets commerciaux qui sont là. Tandis que les photographies, à moi qui m'intéresse à Paris Photo, que je viens, c'est les photographies du quartier Bresson, c'est les photographies d'Avedon, c'est des photographies des gars qui ont photographié avec un autre esprit. Cet esprit des moments historiques qu'on a vécu. Cet esprit qui, peut-être qu'un jour, ça va rester dans les musées ou dans n'importe où pour raconter notre histoire, de notre humanité. La photographie, elle a une centaine d'années, peut-être dans 20 ans, elle n'existera plus. On est en train de passer un autre moment. C'est peut-être l'évolution, c'est comme ça. Mais la photographie, elle a un rôle important pour raconter l'histoire de l'humanité pendant une certaine période.
Et vous, Sébastien Salgado, quand vous préparez ces livres et ces expositions, est-ce que vous pensez à vos lecteurs, aux visiteurs de ces expositions ?
Non. Non, on ne pense pas. Comme les gens pensent que je suis un militant politique, je ne suis pas. J'ai fait ce que j'aime, ou j'ai fait ce qui me motive à y aller, soit une énorme passion, soit une révolte, n'importe. Et la photographie, c'est ma forme de vie. J'ai vu la photographie. Quand vous venez dans notre studio, vous allez voir que tout le monde vit la photographie. Tout petit coin, petit meuble, n'importe. C'est dédié et lié à la photographie. Aujourd'hui, j'ai toujours travaillé dans un grand support. Mon premier support, c'était les magazines. Aujourd'hui, la presse, elle passe aussi à une énorme évolution. Elle passe à une autre chose. Et ça nous reste de montrer ces images, montrer ces sociétés à travers les livres. Par exemple, le travail qu'on fait sur l'Amazonie. On est en train d'attaquer durement l'Amazonie. Le nouveau gouvernement brésilien qui vient d'arriver, son projet, c'est de déstabiliser les communautés indigènes, c'est d'ouvrir la forêt amazonienne à des grands projets agricoles. Et donc, je vais bien que ce livre que Lélia est en train de penser, qui va dessiner, ces expositions qu'on fera, en même temps, on doit ouvrir à la moitié de 2021. On a déjà deux espaces, un à São Paulo, un à Rio. Les musées de l'homme à Paris, les grands espaces des musées de l'homme à Paris. On a le musée, les MAC à Rome. On a un espace à Madrid. On veut lancer ces expositions en même temps et créer un moment de discussion sur l'Amazonie, des débats sur l'Amazonie, d'amener l'Amazonie sur la ligne des préoccupations de toute la planète. Parce que c'est la dernière portion des forêts tropicales qui garantit toute la circulation d'humidité dans la planète. Ces pluies qui tombent ici, je suis sûr à 100% qu'elles sont hautement influencées pour cette grande portion des forêts tropicales que c'est l'Amazonie. Donc, il faut qu'ensemble, on la retienne, on la détient. Et j'espère contribuer un tout petit peu avec ses photos, avec ses livres, avec ses expositions, avec les débats qu'on espère amener, les communautés indigènes à participer à des discussions, à des débats. Vous savez, l'homme, c'est un animal politique. Nous tous. Je suis très ami de Renzo Piano, très politique. On est tous très politiques. Je suis à l'Académie des Beaux-Arts, mes collègues, créateurs, tous les artistes sont tous politiques. On est un animal politique. Et donc, j'espère que ces livres, ces expositions puissent servir à quelque chose.
Aujourd'hui, votre vie se partage entre cette activité autour de l'Amazonie et votre photographie. Est-ce que le temps de la plantation d'un arbre et le temps de la photographie peuvent être comparés ?
C'est très différent. Vous savez, je suis venu vers ce projet environnemental avec Lélia à cause de la photographie. C'est en faisant des images sur mon projet Exode, en travaillant sur les génocides au Rwanda, sur toutes les barbaries qu'on a fait dans la ex-Yougoslavie. J'ai vu des choses tellement terribles dans le monde que mon corps a commencé à mourir. J'ai commencé à mourir. Vraiment, n'ayant plus marché, j'ai eu des problèmes psychologiques énormes. Tout ce que j'ai vu m'a affecté mon âme le plus profond que tu puisses imaginer. J'ai pris la décision d'abandonner la photographie, de retourner à la terre. Là, mes parents étaient vieux. Ils nous ont donné cette ferme, une belle ferme, une ferme de 850 hectares. Et on arrive là-bas pour travailler la terre. En arrivant là-bas, on a vu que la terre était aussi morte que moi, j'étais mort. que toutes ces années de mauvaise exploitation, pas seulement de mes parents, mais de tout le monde dans notre région, on avait tué la terre. On avait provoqué des érosions énormes. La grande forêt qui était là, plus de 60% quand j'étais gamin, elle était à moins d'un demi%. Il n'y avait plus de forêt, plus rien. Il y a une idée, il dit, on replante cette forêt, Sébastien, parce que c'est la seule chose qui peut pousser ici. On y va. Et on a commencé un projet fou. Aujourd'hui, on a replanté énormément d'arbres. On a planté plus de 2 500 000 arbres. On a tout notre espace recomposé. On a créé aujourd'hui la plus grande organisation non gouvernementale au Brésil qui plante des arbres. On a la plus grande pépinière au Brésil. On produit 1 million d'arbres de plus de 100 espèces par année, qui est des espèces natives. On est en train vraiment de rentrer là-dedans. Donc, la photographie m'a mené à ça. Un moment qu'on a vu, j'ai abandonné la photographie. Je ne voulais plus faire la photo. On a commencé ce projet avec Lélia, on s'est mis à fond pendant 2 années. Et après, avec le retour de la nature, le retour des arbres, le retour des oiseaux, le retour des mammifères, on a vu une vie tellement immense. On a vu la vie d'une dimension que je n'avais jamais vue. Avant, pour moi, la vie, c'était une espèce, l'être humain. Là, j'ai compris que la vie, c'était composée des milliers d'autres espèces. Et là, j'ai voulu montrer ces espèces à travers de la photographie. Parce que c'était le seul langage vraiment que j'avais à montrer. Et là, on a conçu le projet Genesis et j'ai revenu sur la photographie à travers de la nature. Mais je te raconte un détail très intéressant. Leica, j'ai travaillé avec des caméras Leica, maintenant je travaille avec des Canon, mais Leica, elle a toujours donné les numéros de série fermés à des personnes. Les Leica 500 000 étaient donnés à la reine d'Angleterre. Les Leica 1 million étaient donnés à Cartier-Bresson. Et comme ça, ils ont donné à des photographes ou des personnalités importantes. Et Leica m'a donné les Leica 3 millions. Un Leica fait un platinum, un Leica incroyable. J'ai dit, je ne vais pas sortir photographier avec une caméra comme ça. Et j'ai demandé au Leica s'il ne pouvait pas m'aider à vendre cette caméra pour notre projet environnemental. Il a dit, oui, on peut t'aider, on organise une vente aux enchères à Vienne, et on va mettre ton Leica. Tu sais, j'ai obtenu 125 000 euros pour ce Leica. On a donné à notre projet, avec cet argent, et avec un peu d'autres argent qu'on a mis ensemble, on a pu planter à peu près 50 000 arbres. Vous imaginez une chose, ces 50 000 arbres, dans 30 ans, 40 ans, ils auront une dimension. Les ronds, ce serait plus grand que cette table. Elles auront 40 mètres d'hauteur. 50 000 comme ça. Quand je mets mon petit Leica en face, mon petit Leica, ce n'est rien en face de tout ça. Mais c'est lui qui a fait ça. Vous savez, donc, tout est tellement interlié, tu vois.
Merci beaucoup, Sébastien Salgado, pour cette masterclass de France Culture.
Merci, un plaisir à moi.
C'était la masterclass de Sebastião Salgado avec Anaël Pija. Attaché de production Nathalie Lempereur, coordination Arnaud Laporte, réalisation Clotilde Pivin.